École normale supérieure, savoir en multimédia.
Je remercie Francis pour cette invitation, évidemment. J'essaie actuellement d'écrire une version plus discursive et plus argumentée du livre dont a parlé Francis, Forme et objet, dont je vais vous livrer une petite partie. Je vous propose de reposer, durant l'heure à venir, une question très classique qui a été reformulée à chaque époque de l'histoire de la philosophie, celle du statut de ce qui n'existe pas. Parménide posait déjà que le non-être n'était pas, la question réapparaît dans le Sophiste, à propos de l'être du non-être, puis dans le premier livre de la physique d'Aristote, avec le passage du non-être absolu à la privation. À l'âge classique et ensuite dans l'idéalisme allemand, la question du non-être devient plus spécifiquement celle de l'inexistence. C'est l'exemple évidemment des 100 thalers de Kant, dont l'inexistence n'ôte rien à leur concept, ou le passage aussi du pur néant de la doctrine de l'être à la non-existence dans la doctrine de l'essence, cette fois de Hegel. Au début du XXe siècle, la question du non-être ou de l'existence et de sa négation se fixe sur certains objets qu'on pourrait appeler des sortes de fétiches de l'inexistence. Le débat revient alors à statuer sur ces objets inexistants ou supposés tels. Déjà évoqués à l'âge classique, le cercle carré, la licorne, la montagne d'or font alors l'objet de débats virulents entre Meinong et Russell dans And Nothing, puis Quine, l'article On What There Is de Quine en 48, au sein même des néons meinongiens comme Edward Zalta ou Richard Sylvan, avant une offensive contre les entités qui n'existeraient pas spatio-temporellement, de la part par exemple des réalistes australiens comme John Anderson ou David Armstrong. Dans le cadre du réalisme spéculatif contemporain, cette fois, un auteur comme Graham Harman demande au contraire de penser, à côté des diamants, des cordes ou des neutrons, des armées, des monstres, des cercles carrés, encore une fois, et des communautés internationales, réelles ou fictives. L'ontologie, écrit-il, doit pouvoir rendre compte de tous ces objets au lieu de les disqualifier ou de les réduire à des riens méprisables. Quant à Quentin Meillassoux, toujours dans ce cadre, il argumente, lui, plutôt contre la possibilité d'objets contradictoires, mais il fait aussi de l'inexistence de Dieu, dit-il, une condition essentielle de sa possible advenue et de l'espérance humaine. Donc pour des raisons aussi bien ontologiques, logiques qu'éthiques, il reste beaucoup à disputer de ce qui n'existe pas. Ce n'est pas une absurdité ni une coquetterie de la philosophie, mais l'une de ses tâches historiques, sans cesse relancées, que de discuter de l'inexistence. Cependant, pour jouer le jeu des lundis de la philosophie, nous n'invoquerons ni ne contesterons les arguments antiques, classiques ou modernes sur le statut des objets inexistants. Nous allons plutôt essayer de proposer un nouveau raisonnement possible, qui emprunte certes à la tradition meinongienne, mais aussi qui s'en distingue nettement. Il vise à redéfinir le sens que nous pouvons donner à l'existence, de manière à concevoir ces objets que nous disons ne pas exister, sans cesser d'entendre pour autant par existence quelque chose qui nous permette aussi de distinguer cette table d'une licorne, d'une montagne d'or ou d'un cercle carré. Certes, nous allons employer l'outillage conceptuel que nous avons forgé dans notre livre « Forme et objet », mais sans jamais le présupposer, et en vous livrant donc les prémices d'un projet encore en cours. Nous allons défendre principalement trois thèses. Premièrement, qu'aucune chose n'est absolument inexistante. Deuxièmement, que n'importe quelle chose existe en un premier sens de l'existence. Troisièmement, que tous les objets n'existent pas également, ni identiquement, en un second sens de l'existence. Première partie. Commençons par établir un panel de choses, sinon inexistantes, du moins dont l'existence est en général douteuse et doit être soumise à la discussion. L'inexistence la plus évidente est la plupart du temps attribuée à la contradiction. Certains, dont nous faisons partie, attribueront à un objet contradictoire une forme d'existence. Mais nous sommes très peu nombreux, et il ne fait aucun doute que c'est pour défendre l'existence du cercle carré qu'il faudra mobiliser le plus d'arguments. Après les objets contradictoires viennent les objets impossibles, au sens d'objets qui violent les lois de la nature, ou du moins des principes communément admis de la physique, un objet qui filerait plus vite que la lumière, par exemple. Puis viennent les objets imaginaires, ceux qui sont composés par l'imagination à partir d'objets réels, comme les animaux légendaires. Puis les objets fictifs, qui sont des objets qui existent au sein d'une image ou d'une histoire, comme l'armure de Don Quichotte, la pipe de Sherlock Holmes ou la casquette de Charles Bovary. Voilà l'essentiel des objets communément considérés comme n'existant pas ou n'existant pas vraiment. Ensuite viennent les objets qui se situent dans une zone considérablement plus floue. Fonctionnant par paires, ils contraignent le plus souvent la pensée à reconnaître l'existence des uns au détriment de l'existence des autres. Tel est d'abord le cas des objets idéaux, donc des idées, des concepts ou des universaux. S'il y a des idées, il y a des objets dont elles sont les idées. S'il y a des concepts, il y a des objets conçus. S'il y a des universaux, il y a des individualités. Or, en attribuant l'existence au premier, je retire généralement de l'existence au second, et inversement. En pensant que les idées existent vraiment, je suis très souvent amené à penser que les objets matériels possèdent une forme d'existence dégradée. En pensant que les objets individuels existent, je suis souvent conduit à affirmer que les universaux, les attributs, relations, classes, nombres, fonctions, n'existent pas vraiment, ou qu'ils n'ont qu'une sorte d'existence secondaire et dérivée. Bien entendu, des dialectiques de toutes sortes sont possibles afin de ménager l'existence relative des uns et des autres. Mais il semble bien que la part d'existence que j'attribue à des généralités diminue d'autant l'existence que je reconnais à la pure singularité, et inversement. Deuxième cas d'existence et d'inexistence qui paraissent entrer dans une fonction inverse, le tout et les parties. Celui qui affirme que seuls existent vraiment les individus, en sociologie on parlerait d'individualisme méthodologique, au sens de Boudon par exemple, en vient presque immanquablement à considérer que la société, par exemple, en tant qu'ensemble des individus et des relations inter-individuelles, n'a pas tout à fait d'existence, ou plutôt qu'elle n'a pas l'existence première qu'on a bien voulu attribuer aux individus. Inversement, le holiste, qui trouve de l'existence d'abord dans les ensembles ou dans les structures, est tenté le plus souvent de penser que les individus, que les parties, donc, n'ont d'existence que secondaire et produite à rebours par la disposition du tout. Troisième et dernier cas, les occurrences d'un même objet existant dans le temps. À moins d'être quadridimensionnaliste, que nous discuterons, je ne peux guère penser que cette table, il y a une seconde de cela, est comme une partie de l'ensemble que formerait la table dans l'intégralité de son existence, sans ôter un petit peu d'existence à cette table à travers le temps. Plus précisément, si je considère que seule existe vraiment la table depuis le moment où elle a été construite jusqu'au moment où elle sera détruite, alors je dois juger que la table, à chaque instant donné, n'existe pas pleinement, qu'elle n'a d'existence que partielle, comme une simple partie de la table qui existerait à travers temps. Au contraire, si j'estime que la table voilà une heure, la table voilà une minute, la table voilà une seconde existe tout à fait, qu'il s'agit chaque fois d'un objet plein et entier qui existe absolument, alors je devrais considérer que la table à travers temps n'existe pas vraiment, qu'elle est une reconstruction par identification et réidentification, et que son existence n'est tout du moins pas immédiate. Le même cas se présente pour la prise en considération respective de l'existence des objets passés et des objets présents. Si je conçois que le présent existe absolument, alors je suis conduit à considérer que le passé n'existe pas tout à fait, que les choses passées n'existent jamais qu'au présent. Si je juge que le passé existe absolument, au contraire, alors je dispose le passé sur le même plan d'existence que le présent, et le présent n'existe plus tout à fait en tant que présent, c'est-à-dire en tant qu'existence exceptionnelle. Bref, la part d'existence que je donne au passé, il semble toujours que je la retire quelque peu au présent. Et la part d'existence que je donne au présent, il semble que je la retire quelque peu au passé. Reprenons. Tentons une métaphore afin de classer nos objets suivant le degré d'existence que, dans le sens commun, on veut bien leur accorder. Disons que dans l'ombre, dans l'obscurité presque totale, il y a les objets contradictoires et les objets impossibles. Dans la pénombre, c'est-à-dire sous une lumière très faible, nous trouvons les objets imaginaires. Puis dans des franges d'ombre et de lumière, d'existence et d'inexistence, nous reconnaissons des systèmes d'objets qui fonctionnent de telle manière que l'exposition à la lumière de certains signifie le retrait dans l'ombre d'autres. Ce sont les objets idéaux et les objets incarnés, le tout et les parties, les objets temporels passés et présents. Enfin, en pleine lumière, nous découvrons les objets réels, avec toute la difficulté inhérente à leur définition, bien sûr. Pour la suite de notre exposé, par commodité, nous identifierons chaque catégorie à un exemple. Partons, si vous le voulez bien, d'un arbre. Pour évoquer l'objet réel et singulier, nous parlerons de cet arbre par la fenêtre. Pour l'objet imaginaire et pour l'objet fictif, nous parlerons de l'arbre aux fruits d'or ou de l'arbre du jardin des Hespérides, si vous voulez. Pour le tout et les parties de l'objet, nous évoquerons l'arbre et la branche ou la racine ou le tronc. Pour les occurrences temporelles de l'arbre, nous désignerons cet arbre maintenant, cet arbre hier, cet arbre il y a un an. Enfin, pour la contradiction, qui nous servira aussi d'impossible, nous nous en remettrons à l'arbre qui n'est pas un arbre. Nous allons nous efforcer de savoir si tous ces objets existent, ou bien si certains existent et d'autres pas, et suivant quels critères. Remarquez que la pensée peut toujours faire avancer ou reculer ces objets de l'ombre à la lumière, et de la lumière à l'ombre. En doutant de ma propre perception, je peux enfoncer dans l'obscurité cet arbre réel auquel me donnent accès mes sens. En étant platonicien, il me revient au contraire d'exposer à la lumière de l'existence l'idée d'arbre, et de repousser dans la pénombre, peut-être même dans l'obscurité, cet exemplaire-ci d'arbre. Devenu matérialiste, je peux placer les atomes qui constituent cet arbre en plein jour et reconduire l'idée de chêne, si c'est un chêne, celle de l'espèce Fagus sylvatica, celle d'arbre et celle de plante, au-delà de la ligne d'ombre. Or, nous allons montrer que cette métaphore anodine correspond à une fonction particulièrement importante de l'existence, celle d'une existence discriminante qui permet de découper les choses suivant des régions. Deuxième partie. Par conception discriminante de l'existence, nous entendrons désormais toute conception qui tend ultimement à distinguer ce qui existe de ce qui n'existe pas. Cette conception a pour charge d'étendre soit la lumière de l'existence, soit l'ombre de l'inexistence. Une conception discriminante peut tout à fait nous mener à considérer que tout existe, cet arbre, l'arbre aux fruits d'or, l'idée d'arbre, cet arbre maintenant, cet arbre il y a une heure, sauf la contradiction, l'arbre qui n'en est pas un. Elle peut aussi bien nous conduire à estimer que rien de tout cela n'existe, sinon par exemple les parties de cet arbre, les particules élémentaires et les forces qui les maintiennent ensemble, qui constituent les atomes, qui constituent les molécules, qui constituent les tissus, qui constituent les branches, le tronc et les racines, qui constituent cet arbre. Je peux donc maximiser la part accordée à l'existence ou bien la minimiser, de sorte qu'il y aura toujours des conceptions discriminantes de l'existence large, voire très large, et des conceptions discriminantes de l'existence particulièrement étroites. Tout dépend bien sûr du critère choisi. Néanmoins, toute conception discriminante de l'existence se trouve limitée inférieurement et supérieurement. Car pour rester discriminante, évidemment, elle doit opposer de l'inexistant à tout ce qui existe. Ainsi, de telles conceptions ne peuvent en aucun cas nous conduire à penser que tout existe, ou bien que rien n'existe, ce qui, dans un cas comme dans l'autre, n'est plus du tout discriminant. Il faut au moins que notre conception retire un objet à l'existence, ou en retire un à l'inexistence. La discrimination s'opère systématiquement par la détermination de l'existence. Ce qui signifie qu'il me faut redoubler l'existence en précisant qu'exister, c'est exister matériellement, ou bien qu'exister, c'est exister de manière non contradictoire, ou bien qu'exister, c'est exister en tant que variable d'une fonction logique, ou enfin qu'exister, c'est exister dans un monde possible, etc. Il s'agit alors d'une discrimination a priori, puisque j'oppose une détermination, la matérialité, la non-contradiction, l'appartenance à un monde possible, et que je peux ainsi vérifier si une entité possède ou non cette détermination, et par suite si elle existe. Il y a une deuxième discrimination possible, qui n'est plus a priori, mais a posteriori. En ce cas, je n'affirme plus, par exemple, que n'existe que ce qui est matériel, mais que tout ce qui existe est matériel. Je peux affirmer, comme John Anderson, tout ce qui existe est réel, ce qui veut dire qu'il s'agit toujours d'une situation spatiale et temporelle ou d'une occurrence qui se trouve au même niveau de réalité que n'importe quoi d'autre qui existe. Alors, je commence par poser, comme lui, qu'il y a de l'existant et de l'inexistant, et que tout ce qui est existant est déterminé à être réel, spatio-temporel, du moins au sens où l'entend Anderson. En discriminant a priori, je pose une détermination. Ce qui la possède accède au statut d'existant, ce qui ne la manifeste pas n'y accède pas et se trouve rejeté dans l'ombre. En discriminant a posteriori, je considère plutôt que l'existence est une détermination telle que si une entité la possède, elle en possédera une autre également. Je suppose donc qu'il y a de l'inexistant et je redouble l'existant par une qualité supplémentaire, comme j'attribuerais une récompense au vainqueur d'une épreuve. Alors je considère non pas, par exemple, que le fait d'être réel est ce qui marque la différence entre ce qui existe et ce qui n'existe pas, mais que ce qui existe, contrairement à ce qui n'existe pas, reçoit en plus la qualité d'être réel. Par exemple, chez Kant, la discrimination a posteriori entre existant et non-existant est synthétique et non analytique, puisque l'existence s'ajoute synthétiquement à mon concept de la chose possible et ne lui ajoute rien analytiquement. Chez Berkeley, la discrimination a priori s'effectue à l'encontre des substances matérielles, en faveur des idées et des esprits, dans la mesure où seul existe ce qui est perçu par l'esprit ou l'esprit qui le perçoit. La discrimination a priori produit la différence entre existence et inexistence. La discrimination a posteriori l'entérine. N'allons pas à présent discuter du critère décisif qui nous permettrait de nous livrer à une discrimination a priori entre l'idée d'arbre, les parties de l'arbre, l'arbre d'hier ou encore l'arbre aux fruits d'or. N'allons pas non plus rechercher ce que les objets, s'ils existent, pourraient gagner a posteriori par rapport aux objets supposés non existants. Nous allons plutôt nous intéresser aux problèmes soulevés par toute position discriminante, qu'elle soit large ou étroite, qu'elle soit a priori ou a posteriori, et quel que soit son critère. Il n'y a guère à notre sens que deux points communs à toutes les conceptions discriminantes possibles de l'existence. Le premier, qui est aussi le plus évident, c'est qu'elles supposent ou produisent toutes de l'inexistant. Le second, moins aisé à comprendre et à repérer, c'est qu'il y a au moins certains objets entre lesquels elles ne peuvent discriminer de l'absolument existant et de l'absolument inexistant. Commençons par ce second point. Dans les franges d'ombre et de lumière du sens commun reposent donc des objets dont la venue à l'existence entraîne généralement la diminution d'existence d'autres objets qui leur sont attachés. Affirmant l'existence absolue des individualités, je me prends à constater la moindre existence des universaux. Affirmant que les parties existent pleinement, il me semble que n'existe pas vraiment le tout. Affirmant que l'arbre de maintenant existe, que l'arbre d'hier existe, je devrais admettre que l'arbre au cours du temps n'existe pas tout à fait. Je peux aussi défendre les positions inverses. Ces positions sont symétriquement réversibles. Mais dans un cas comme dans l'autre, je ne peux pas affirmer jusqu'au bout que ce qui n'existe pas vraiment est absolument inexistant. Je dois en effet tout de même rendre compte de l'existence illusoire ou de l'apparence d'existence, soit du tout si seules les parties existent, soit de l'arbre de maintenant si seul existe l'arbre à travers temps. Ainsi, je ne suis jamais conduit à trouver parmi ces systèmes d'objets solidaires de l'inexistence pure, mais plutôt une existence dégradée. Parce qu'il existe des objets organisés en solidarité qui induisent une réversibilité symétrique de leur part d'existence et d'inexistence, Je me vois contraint de doser l'existence et l'inexistence entre l'universel et le singulier, entre le tout et les parties, entre l'objet transtemporel et ses occurrences dans le temps, de telle sorte que je ne peux jamais réduire à néant l'existence des uns à mesure que j'absolutise pourtant l'existence des autres. Le paradoxe est le suivant. Alors que je peux assurément absolutiser l'existence d'une partie de ces objets, je ne peux pas anéantir pour autant l'existence de leur contrepartie. Je peux seulement la modaliser, la diminuer et surtout la dégrader. Il faut au moins que l'existence de la contrepartie se révèle illusoire, dérivée, secondaire, vide ou reconstruite. Elle ne peut pas être absolument nulle. Premier point donc. Certains rapports entre les objets, les rapports de compréhension logique, d'extension spatiale ou d'identité à travers temps, nous contraignent à doser l'existence et non pas simplement à la discriminer. En effet, leur existence a ceci de particulier qu'elle suppose une existence secondaire. Leur existence en comprend une autre. Les parties sont parties d'un tout, le tout est totalité de parties. Les occurrences temporelles de l'arbre sont occurrences d'un même arbre, et cet arbre au cours du temps est l'identité de différentes occurrences, etc. Nous dirons que ces objets supposent des existences solidaires, non discriminables. Soit il faut les différencier et les séparer par des gradations, soit il faut les considérer également. Soit j'affirme que l'idée d'arbre existe, et absolument pas les arbres singuliers, soit j'affirme l'inverse. Dans le premier cas, l'idée d'arbre n'est plus l'idée de rien. Dans le second cas, l'arbre singulier existe, mais ne peut plus être un arbre. Ou bien j'affirme que l'idée d'arbre existe et que cet arbre-là ne possède qu'une existence dégradée. Auquel cas, je ne discrimine pas simplement entre existence et inexistence, mais j'introduis bien des degrés d'existence. Ou alors j'affirme que l'idée d'arbre est que cet arbre-là possède une existence égale, par opposition à l'inexistence absolue, par exemple, du cercle carré. Auquel cas, je repousse seulement le moment de discrimination de l'inexistant. Ainsi, certaines catégories d'objets solidaires supposent qu'on ne puisse discriminer de l'existant ou du non-existant entre eux. Ou bien il faut distinguer des degrés d'existence parmi eux, ou bien il faut considérer qu'ils existent ou inexistent tous également. Ce qui nous mène à notre deuxième point. Échouant à découper ces objets existentiellement solidaires, les conceptions discriminantes de l'existence doivent disposer ailleurs la frontière entre l'existant et l'inexistant, repousser l'inexistant plus loin ou plus près. Troisième partie. Posons donc qu'il y a des choses absolument inexistantes, soit en deçà, soit au-delà de tous ces systèmes d'objets solidaires dans l'espace, dans le temps, qui nous contraignent à transiger toujours et à introduire des degrés d'existence. Or, l'inexistant est précisément ce qui n'est pas susceptible de différence ni de degré. Autant des choses peuvent être plus ou moins existantes, autant rien ne peut être plus ou moins inexistant. L'inexistence n'est pas susceptible de détermination ni de variation. Mais supposons qu'il y ait tout de même diverses choses inexistantes. Qu'il s'agisse de choses nous indique assez qu'elles sont déterminées. Ce n'est pas n'importe quoi, ce n'est pas rien, ce n'est pas tout qui inexiste, ce sont différentes choses. Mais en affirmant leur inexistence, j'affirme du même coup leur indétermination, ce qui signifie que je ne peux plus distinguer aucune chose inexistante de toute autre chose inexistante. Ou bien j'accepte qu'il n'y ait aucune chose déterminée dans l'indétermination de l'inexistence, ou bien je parais soutenir une contradiction. À moins, comme c'est presque toujours le cas dans une conception discriminante, de préciser que les termes que nous employons pour désigner les choses inexistantes ne sont que des approximations insatisfaisantes et que nous semblons déterminer une certaine chose dont nous disons qu'elle n'existe pas, mais qu'en fait notre langage est impropre, ou plutôt qu'il s'agit de propositions trompeuses dont le sujet apparent est en fait une description définie, d'expressions vides, de désignations ou de représentations sans objet. En ce cas, le langage employé est une apparence de détermination comme approximation d'une indétermination visée. Je parle en réalité d'un vide, du non-être, d'un rien qui est toujours le même, mais qui donne l'illusion de prendre l'apparence de figure du vide que sont les choses inexistantes. Pour un pur matérialiste réductionniste, ainsi sont par exemple les états de conscience ou les qualités secondes, qui ne sont que des effets de langage désignant du non-être que l'analyse rigoureuse permettra de révéler. Mais alors il y a deux possibilités. Soit la désignation est tout de même assez correcte pour désigner une détermination qui appartient de quelque manière à ce qui est désigné. Et alors la chose inexistante est un tout petit peu déterminée. Soit la désignation est absolument impropre, et alors elle n'a aucun rapport avec ce qu'elle désigne, donc il est impossible de s'y fier. Dans le premier cas, c'est que la chose inexistante est même faiblement ou indirectement déterminée, donc existante. Dans le second, c'est que la détermination manque complètement la chose et ne permet donc pas de tirer de conclusion quant à son inexistence ou pas. Une seule issue reste ouverte. Considérer l'inexistant, indéterminé, comme absolument innommable. Et non seulement indicible, mais immontrable, au sens wittgensteinien de la fin du Tractatus. Auquel cas, l'inexistant est le négatif de tout ce qui existe, c'est une bordure de l'existant, mais qui ne peut être déterminée qu'extérieurement, comme non-existence, et jamais intérieurement, de sorte que rien ne peut être dit, ni pensé, ni montré comme étant inexistant. Celui qui voudra continuer à concevoir des choses inexistantes devra dès lors se résoudre à ne pas les considérer comme absolument inexistantes, au risque de perdre leur détermination dans l'indéterminé comme un verre d'eau dans l'océan. Il faudra plutôt les considérer comme des choses à demi existantes, spectrales, des fantômes de choses créées par l'intellect humain et le hantant malgré lui, tels les produits de la pensée humaine devenus autonomes et fétichisés chez Marx, par exemple. Toute conception réellement discriminante, matérialiste ou idéaliste, devra par conséquent répondre à deux exigences. Trouver de l'inexistant, mais aussi le déterminer. Or, cela ne peut se réaliser qu'à la condition à la fois d'enlever un peu d'indétermination à l'inexistant et un peu d'existence à la détermination. Ce qui veut dire, d'une part, dégrader la détermination, en considérant par exemple que sa représentation, que sa désignation est impropre, d'autre part, dégrader l'existence, en jugeant que certaines existences, composées, dérivées ou simplement secondaires, sont moins parfaites que les existences pleines et entières. Et en dégradant la détermination, on dégrade aussi la représentation, et inversement. Ainsi, le multiple platonicien se laisse mal dire. Existant moins bien que les formes, il est moins aisément déterminable. Aussi, pour un classique, ce qui n'est pas énoncé clairement n'est pas bien conçu. Et pour un positiviste du début du XXe siècle, ce qui n'est pas conçu et analysable convenablement, c'est-à-dire ce qui n'est pas bien déterminé, possède une existence révisable ou réductible, c'est-à-dire dégradée. Pour cette raison, en commençant par discriminer de l'existant et du non-existant, on finit nécessairement par dégrader une part de l'existant, afin d'obtenir de l'inexistant un peu et mal déterminé. Et toute discrimination existentielle finit en fait en dégradation. Quatrième partie. Notre raisonnement est donc le suivant. Toute conception qui fait la différence entre ce qui existe et ce qui n'existe pas conduit nécessairement, en fait, à une conception graduelle de l'existence, dans laquelle toute chose existe plus ou moins suivant une échelle de genre ou de région d'existence. Nous réalisons donc qu'une pure distinction entre l'absolument existant et l'absolument inexistant n'est jamais tenable jusqu'au bout et doit toujours s'accompagner de degrés d'existence parmi les choses. Or, par degré d'existence, on entend nécessairement une structure cumulative. Ce qui existe le plus partage avec ce qui existe un peu moins un certain nombre de degrés d'existence communs, mais il manifeste en outre un degré supérieur d'existence. Si tel est bien le cas, on doit pouvoir concevoir un degré minimal d'existence partagé par toute chose. C'est le cas dans toute échelle des êtres. Par exemple, l'âme végétative aristotélicienne est à la fois l'âme minimale et l'âme la mieux partagée, puisque présente aussi chez les êtres qui possèdent une âme sensitive et a fortiori chez ceux qui ont une âme intellective. Les choses qui existent le moins ne relèveront donc que d'un degré minimal d'existence, tandis que toutes les autres manifesteront, en plus de ce degré infime, d'autres degrés variables d'existence. Ce qui implique que la gradation de l'existence de toute chose contraint toujours à penser une forme d'existence commune. Et cette forme d'existence commune est identifiée à l'existence la plus faible. Nous pouvons donc affirmer que le propre de toute conception graduelle ou dégradante de l'existence de toute chose est de confondre l'existence commune et l'existence minimale. L'existence que toutes choses ont en partage, c'est l'existence à son tout premier degré. Nous allons éprouver cette hypothèse afin d'apprécier la pertinence ou non de toute conception graduelle ou dégradante de l'existence. Est-ce que vraiment l'existence que toutes choses peuvent partager est bien l'existence minimale? Pour ce faire, il nous faut renverser la perspective qui était la nôtre en parlant d'existence discriminante. Il ne s'agit plus du tout maintenant de trouver un critère permettant de discriminer entre choses existantes et choses non existantes, en choisissant une juste détermination de l'existence, la matérialité, la réalité, la non-contradiction, etc. Il s'agit bien au contraire de trouver un critère autorisant d'attribuer l'existence à n'importe quelle chose, donc de ne pas discriminer entre ces choses. La démarche, on le comprend, s'inverse. Il devient important non plus de trouver un critère assez fort pour départager existant et non-existant, mais un critère suffisamment faible pour ne pas distinguer des existants ou des non-existants, ou plus exactement, pour distinguer le moins d'inexistants possible. Posons la question, quel critère sera assez faible, tout en demeurant un critère, pour distinguer le moins de choses inexistantes possible? Voici comment nous proposons d'opérer. Par existence, nous entendrons, au minimum, le simple fait d'être dans. Exister signifiant étymologiquement une sortie, nous contentons de poser que l'existence d'une chose est le fait pour elle d'être dans autre chose, quoi que ce soit. Et ce dans quoi la chose se trouve, nous l'appellerons sa détermination. Ainsi, une chose qui est dans l'espace et dans le temps aura une existence déterminée spatio-temporellement. une chose qui est dans la nature, une existence déterminée naturellement, et ainsi de suite. Reformulons alors la question qui nous taraude. Jusqu'où est-il possible de dédéterminer l'existence de manière à obtenir une détermination la plus faible possible ? Si notre raisonnement est juste, cette détermination la plus faible correspondra au degré d'existence inférieur partagé par toute chose dans le cadre de toute conception graduelle ou dégradante de l'existence. En effet, chaque détermination de l'existence nie en même temps la possibilité pour certaines choses d'accéder à l'existence ainsi déterminée. En déterminant spatio-temporellement l'existence, si j'affirme que seul existe ce qui existe dans l'espace et dans le temps, je pose un critère très fort qui me permet de considérer que les choses qui n'existent pas dans l'espace et dans le temps n'existent pas du tout. Occupons-nous donc à un exercice de dédétermination maximale de l'existence. La question est alors, jusqu'où peut-on ôter des déterminations à l'existence sans obtenir pour autant une existence indéterminée qui ne serait plus l'existence de rien ? Autrement dit, jusqu'où peut-on faire abstraction de détermination de l'existence de quelque chose tout en conservant un quelque chose en n'obtenant pas en lieu et place n'importe quoi ? Car nous cherchons bien une dédétermination maximale et non pas une indétermination absolue. Nous voulons obtenir un quelque chose que n'importe quoi pourra être, mais qui ne devra pas être n'importe quoi. Commençons. D'emblée, nous pouvons renoncer à la matérialité, la spatio-temporalité ou la naturalité. Il s'agit de déterminations extrêmement fortes. Si seul existe ce qui existe matériellement, spatio-temporellement ou naturellement, alors il nous faut considérer, encore une fois, qu'existent des sous-choses, des choses secondaires, des choses illusoires ou fausses ou dérivées ou reconstruites. Pour un matérialiste radical et réductionniste, comme Churchland, par exemple, cela conduit à éliminer de très nombreuses choses par une compréhension pleinement scientifique de la nature humaine, telles que les croyances, les sensations, les désirs. Certaines de ces choses seront éliminées, d'autres seront réduites à un niveau approprié d'analyse, qui est celui de leur explication en termes matériels. Évidemment, toute position matérialiste, naturaliste ou réaliste n'est pas éliminativiste ni réductionniste, loin de là, ce n'est pas ce que je dis. Mais toute conception déterminée de l'existence en ces termes conduit à stratifier l'existence, comme nous l'avons vu, et à produire des sous-choses ou des choses secondaires, des effets, des dérivations, des constructions. Or, sans nous prononcer sur la validité de ces thèses, puisqu'il est tout à fait possible que seule la matière, seule la nature ou seul l'espace-temps existent réellement, à ce stade de notre raisonnement, nous constatons en tout cas que ces déterminations ne nous permettent pas de penser une existence la plus faiblement déterminée possible. C'est tout ce que nous constatons. Ce que nous recherchons n'est pas l'existence vraie, ni l'existence réelle, ni l'existence absolue, mais simplement l'existence la mieux partagée par les entités supposées fausses, illusoires, autant que par celles qui sont estimées vraies ou réelles dans ces théories-là. Écartons donc matérialité, naturalité ou espace-temps comme des déterminations trop fortes. Quelle détermination pourrait être plus faible ? La non-contradiction ? Une fois de plus, nous n'affirmons pas que ce critère n'est pas pertinent, mais simplement qu'il est encore trop fort pour nous. Si la détermination minimale de l'existence était la non-contradiction, il nous faudrait admettre que les objets contradictoires n'existent pas du tout, donc que nous ne sommes pas capables d'attribuer une certaine existence à ces objets, et nous y reviendrons. N'y aurait-il pas quelques déterminations plus faibles encore ? L'unité, peut-être. Il faudrait alors penser que toute chose existe en tant qu'elle est une chose. Même une contradiction est l'unité, peut-être impossible, mais l'unité tout de même de deux concepts, tels que le cercle et le carré. L'unité serait donc une détermination d'existence plus faible que la non-contradiction. Et l'existence unitaire serait l'existence la plus faiblement déterminée, donc la plus largement partagée. Un être est un être, suivant l'adage leibnizien. Aussi faible que soit la détermination de l'unité, il n'est pas encore certain qu'elle soit la plus faible possible. En parlant d'un arbre, que cet arbre soit réel ou imaginaire, d'un arbre qui n'est pas un arbre, ou bien d'une branche, ou bien d'un tronc, nous concevons diverses choses qui seraient chacune quelque chose en vertu de leur unité, c'est-à-dire de leur capacité à compter pour un et à entrer dans un compte. Un arbre, c'est ce qui peut être parmi deux, trois, quatre ou cinq autres arbres. L'unité n'est pas seulement l'unification de la chose, c'est aussi ce qui nous autorise à commencer un compte possible. Mais un compte de quoi ? Le compte de choses comparables, le compte d'autres arbres, d'autres branches, etc. Une chose qui existe en tant qu'elle est une existe donc nécessairement comme unité possible du compte d'autres choses comparables et classables. Pour cette raison, nous pouvons présupposer qu'une détermination est peut-être plus faible encore que l'unité. Imaginons une détermination qui non pas permettrait à la chose d'entrer dans un compte, mais qui l'en soustrairait. Cette détermination ne déterminerait même pas la chose à entrer dans un ensemble, dans une classe ou dans une série. Elle ne permettrait pas de la compter pour un, puisqu'elle interdirait toute autre chose qu'elle. Est-il possible de concevoir ce qui, dans l'unité, permet l'unification de la chose, sans concevoir en même temps ce qui, dans l'unité, conduit à considérer que ce qui est compte pour un parmi d'autres possibles ? C'est ce que nous appellerons la solitude. Cette existence solitaire est moins déterminée que l'existence unitaire. Par existence solitaire d'une chose, nous entendons bien sa détermination minimale. La détermination de l'existence étant ce dans quoi la chose qui existe est, nous dirons qu'une chose est solitaire en tant qu'elle n'est dans aucune autre chose. Une chose seule, c'est une chose qui n'est accompagnée d'aucune autre chose. La chose seule ne pouvant être dans une autre chose, auquel cas il y aurait deux choses, la chose seule est dans autre chose qu'une chose. Reprenons. À quoi correspondrait l'existence solitaire, déterminée de manière minimale de cet arbre ? Non pas à son existence matérielle, ni à son existence dans la nature, ni dans la classification des espèces. Non pas à son existence dans l'espace et dans le temps. Non pas à son existence idéale, ni même conceptuelle. Non pas même au simple fait d'être une chose, c'est-à-dire de pouvoir compter pour une chose parmi d'autres choses, ou d'entrer dans une classe. Mais au fait d'être seule chose. Imaginons que cet arbre se découpe sur un fond indifférencié, sur le fond de tout ce qui n'est pas lui. Cet arbre a perdu sa forme, sa couleur, son âge. Il a même perdu le fait d'être un arbre. Il a aussi perdu le fait d'être un. Que lui reste-t-il donc à ce degré d'abstraction dans sa plus extrême nudité ? Non pas l'indétermination pure, mais justement le fait d'être quelque chose. Et il n'est quelque chose que là où il est seule chose. Là où cet arbre est quelque chose, le ciel n'est pas quelque chose, les autres arbres non plus, je ne suis pas quelque chose, le nom d'arbre non plus. Tout sauf cet arbre est indifférencié, indistinct. Sur le fond de cette indifférenciation de tout ce qui n'est pas l'arbre, l'arbre n'est rien d'autre que quelque chose. À notre sens, il n'y a pas de détermination plus faible de l'existence. Car en deçà du fait d'être quelque chose, en ce sens, il faudrait envisager la possibilité d'être moins que quelque chose, c'est-à-dire d'être n'importe quoi, donc d'être indéterminé. Être quelque chose est donc la détermination minimale de l'existence, en deçà de la matérialité, de la non-contradiction ou de l'unité de compte. Cinquième partie. La détermination de l'existence de quelque chose est très faible, mais elle n'est pas nulle. Être quelque chose suppose d'être seul, ce qui suppose que le fait d'être quelque chose soit exclusif, ce qui suppose qu'il soit égal. Une chose n'existe comme chose qu'en tant qu'elle est seule chose, c'est-à-dire qu'elle existe hors d'elle-même, dans le fond indistinct de tout ce qui n'est pas elle. Ce fond, nous l'appellerons le monde. Or, n'importe quoi peut exister en ce sens, c'est-à-dire tout simplement être dans le monde. Mais deux choses ne peuvent jamais exister en même temps, d'après ce que nous venons de dire, puisqu'elles ne seraient plus seules. Pourtant, toutes choses doivent pouvoir être dans le monde. La seule solution est qu'il n'y ait de choses qu'une à la fois. Lorsque ceci est une chose, rien d'autre ne l'est. Lorsque cela est une chose, ceci ne l'est pas. Cette exclusivité assure que les choses n'existent jamais en tant que choses en même temps. Mais elle assure aussi que cette existence-là est bien égale. Puisque deux choses ne peuvent exister simultanément, l'être dans le monde de deux choses ne peut jamais être comparé. Pour cette raison, aucune chose ne peut être plus dans le monde qu'une autre. Aucune ne peut être moins dans le monde qu'une autre. L'existence la moins déterminée possible correspond au simple fait d'être dans le monde. C'est le fait pour n'importe quoi de pouvoir être quelque chose, c'est-à-dire d'être seule chose et de l'être autant que n'importe quoi d'autre. Cette dernière qualité est particulièrement importante à nos yeux. Aussi, si on revient un petit peu sur ce que nous venons de faire, en déterminant au minimum l'existence, de façon à concevoir l'existence partagée par toute chose, nous venons en fait de découvrir une forme d'existence qui n'est pourtant pas susceptible de degré. Cette existence formelle, le simple fait d'être dans le monde, d'y être seul, exclusivement et également, ne peut admettre ni de plus ni de moins. Ce qui est dans le monde y est ni plus ni moins qu'autre chose. Ainsi, en déterminant au minimum l'existence, nous n'obtenons pourtant pas une existence minimum. Nous obtenons une existence égale pour toute chose. Et nous n'obtenons pas non plus une existence partagée, une existence commune à toute chose, puisque c'est une existence exclusive. Lorsqu'une chose existe ainsi, rien d'autre ne peut exister ainsi. Cette existence formelle n'est pas commune, elle est distributive et exclusive. N'importe quelle chose peut la recevoir également, à condition qu'aucune autre ne la reçoive alors. Reprenons le fil de notre raisonnement. Nous avons cherché à déterminer à minima l'existence de manière à obtenir une existence commune et la plus faible possible, qui se trouverait présupposée par toute conception graduelle ou dégradante de l'existence, en sachant que toute conception discriminante de l'existence conduit à une telle conception graduelle ou dégradante. Ainsi, de proche en proche, toute conception discriminante de l'existence, qui sépare de l'existant et du non-existant, conduit à présupposer en fait une existence minimale et commune à toute chose. Mais nous venons d'établir qu'en minimisant la détermination de l'existence, nous obtenions en fait une existence qui n'était ni minimale ni commune, mais égale et distributive. Il semble donc qu'il nous faille abandonner totalement la conception discriminante et la conception dégradante de l'existence pour embrasser une conception distributive d'une existence égale et formelle. Pour savoir si tel doit être le cas, encore faut-il prouver que n'importe quoi peut bien manifester cette existence égale et formelle qui consisterait simplement à être quelque chose. Nous avons admis que ce qui recevait le moins facilement l'existence était la contradiction. Notre tâche est donc désormais de déterminer si un objet contradictoire peut bien exister au sens distributif et non discriminant que nous venons de définir, c'est-à-dire si un objet contradictoire peut être quelque chose. Nous proposons donc de démontrer qu'un objet contradictoire n'est pas n'importe quoi et que par voie de conséquence, il est bien quelque chose. Sixième point. Par n'importe quoi, nous allons entendre, comme nous l'avons fait dans notre livre, la figure de l'indétermination en tant que puissance. C'est la puissance de pouvoir être ceci, ou cela, ou ceci et cela, ou ceci ou cela, ou ni ceci ni cela, etc. Bien, considérons à présent notre objet contradictoire. Nous avons dit un objet qui est un arbre et qui n'est pas un arbre. Si par puissance on entend le pouvoir d'être ou de ne pas être, cette chose possède bien la puissance d'être tout sauf un arbre. Cette chose peut être un lombric, une table, un mammouth, le verbe être, tout cela à la fois ou pas. Mais est-ce que cette chose a la puissance d'être un arbre? Oui, aussi, dans la mesure où elle peut être tout sauf un arbre. Donc cette chose à la fois peut être tout sauf un arbre et peut être un arbre. Mais elle n'a pas que de la puissance, elle est aussi déterminée. Elle doit être un arbre, elle est déterminée à être un arbre. Si cette chose n'est pas un arbre, l'arbre qui n'est pas un arbre, donc si cette chose n'est pas un arbre, alors elle sera aussi incomplète qu'un chat noir qui ne serait pas un chat ou qui ne serait pas noir. Bien évidemment, elle doit aussi ne pas être un arbre, et elle est déterminée en ce sens, puisqu'elle est contradictoire. La chose en question possède donc une double détermination, ainsi qu'une double puissance qui joue les unes contre les autres. Elle est déterminée à être un arbre, elle est déterminée à ne pas être un arbre. Elle a la puissance d'être n'importe quelle chose, sauf un arbre, et elle a la puissance d'être ou de ne pas être un arbre. Or, cela suffit à la distinguer d'une chose, par exemple, qui est un homme et qui n'est pas un homme. Cette chose-là, à la fois, peut être tout sauf un homme et peut être un homme. Mais cette chose-là aussi doit être un homme et doit ne pas être un homme. Maintenant, comparons nos deux choses contradictoires. Est-ce que l'arbre qui n'est pas un arbre doit être un homme? Non, il peut être un homme, dans la mesure où il peut être n'importe quelle chose sauf un arbre, donc par exemple un homme. En revanche, l'objet qui est un homme et qui n'est pas un homme doit être un homme, et il doit ne pas l'être, et il peut ou non être un arbre. L'objet qui est un arbre et qui n'en est pas un possède donc bien une détermination minimale qui le distingue de l'objet qui est un homme et qui n'en est pas un. Plus exactement, la distribution des puissances et des déterminations n'est pas la même d'un objet contradictoire à l'autre. Toute contradiction distribue différemment sa double détermination qui, une fois assemblée, produit effectivement n'importe quoi. Notre objet est déterminé à être un arbre et à être n'importe quelle chose sauf un arbre. Ajoutant l'une à l'autre, nous obtenons une détermination à être n'importe quoi sauf un arbre plus un arbre, c'est-à-dire n'importe quoi. Mais aucune contradiction ne peut se dispenser d'une détermination initiale afin de faire jouer la négation. Penser qu'une contradiction absolue est n'importe quoi, c'est donc ne juger la contradiction que par son résultat, en oubliant volontairement son point de départ. C'est l'accueillir une fois que la négation a joué son rôle, en refusant de prendre en compte ce qu'il a fallu nier pour en arriver là. On retrouve très exactement ici la ligne de clivage entre la tradition analytique et la tradition dialectique de pensée dans leur rapport à la contradiction. La tradition analytique, au moins après Frege et Russell, est celle qui juge la contradiction sur son résultat et qui estime, parce que d'une contradiction peut s'en suivre n'importe quoi, c'est quitur quod libet, qu'une contradiction est n'importe quoi. La tradition dialectique, après Hegel en tout cas, est celle qui considère au contraire la contradiction à partir de sa détermination initiale et du travail du négatif et de la médiation. De sorte que pour elle, parce qu'une contradiction n'est pas n'importe quoi, il ne s'ensuit pas d'elle n'importe quoi, mais un ordre processuel déterminé. Nous ne désirons pas prendre parti ici pour l'une ou l'autre de ces positions, mais seulement pointer la différence que les deux traditions historiques passent outre et qui se manifestent pourtant dans toute contradiction entre ce qu'elle est et ce qui s'ensuit d'elle. Contrairement à la tradition analytique, nous ne comptons pas nous intéresser à ce qui peut se déduire d'une contradiction, mais à la contradiction en tant qu'objet, qui n'est pas n'importe quel objet. Contrairement à la tradition dialectique aussi, nous ne comptons pas défendre que parce que la contradiction n'est pas n'importe quoi, il ne s'ensuit pas d'elle n'importe quoi. Certes, si un objet exemplifie le fait d'être un cercle et le fait de ne pas être un cercle, toute proposition peut être vraie et aussi bien fausse, et il s'ensuit n'importe quoi, au sens où nous l'avons défini. Mais il faut prendre au sérieux le « il s'ensuit ». L'objet contradictoire, au sens qui nous intéresse, n'est pas n'importe quoi, mais ce de quoi n'importe quoi peut s'en suivre. Juger qu'une contradiction absolue est n'importe quoi, c'est produire une contradiction amnésique, qui, en niant sa détermination initiale, devrait nous contraindre à oublier cette détermination initiale, et donc la répartition produite entre ses puissances et ses déterminations. Or, toute contradiction est une histoire. La chose qui est un arbre et qui n'est pas un arbre ne peut dissoudre la détermination « être un arbre » qu'à partir de cette détermination initiale. Et on ne peut attester de cette dissolution, et donc parler de contradiction, qu'à partir de l'instant où la contradiction garde l'empreinte de ce qui a été dissous. Cette empreinte se révèle dans la différence entre les contradictions, dans la répartition entre leur puissance et leur détermination. Un arbre qui n'en est pas un doit être un arbre et il doit ne pas en être un. Un homme qui n'en est pas un peut être un arbre ou ne pas en être un. Ainsi, la puissance répartie d'une contradiction n'est jamais exactement celle d'une autre contradiction. Tout simplement parce qu'une contradiction garde en elle la mémoire objective de sa détermination initiale et la conserve comme une impuissance. Le cercle carré doit être un cercle et doit être carré, alors qu'il peut simplement être triangulaire ou pas, être un chat ou pas, être un arbre ou pas. Septième point. Pour cette raison, nous pouvons donc attester, au sens où nous voulons l'entendre, de ce qu'aucune contradiction n'est n'importe quoi, même s'il s'ensuit n'importe quoi. Et si aucune contradiction n'est n'importe quoi, cela signifie que toute contradiction est quelque chose, et quelque chose de distinct. Ainsi, nous avons établi qu'un objet contradictoire pouvait avoir l'existence formelle, qui consiste à être quelque chose, à être dans le monde, ni plus ni moins qu'autre chose. Et dans la mesure où les objets contradictoires étaient les objets les moins susceptibles d'exister, nous avons montré a fortiori que n'importe quelle chose existait au sens où nous l'entendons, en un sens distributif, exclusif et égal, qui signifie simplement que n'importe quelle chose, réelle, imaginaire, fictive, possible, impossible, contradictoire, tout ou partie, à chaque instant ou éternellement, est dans le monde. Il semble donc que nous soyons parvenus à un résultat. Cet arbre, l'arbre aux fruits d'or, l'arbre d'hier, d'avant-hier, la branche, le tronc, l'idée d'arbre, l'arbre qui n'est pas un arbre, tous existent également. Il possède une forme non pas minimale d'existence, mais une forme d'existence la plus faiblement déterminée. Cette existence égale n'est pas susceptible de degré et interdit donc une échelle des existences puisque tout ce qui existe en ce sens existe ni plus ni moins. Cette conception, appelons-la désormais une conception distributive de l'existence, que nous prêtons donc également à toute chose de manière très libérale. Huitième point. Hélas, il semble bien que nous nous trouvions devant de nouvelles difficultés si nous voulons bien examiner avec précaution cette existence absolument distributive. Nous pourrions nous contenter de ce résultat et imaginer avoir offert à toutes les choses, quelle que soit leur détermination, une même existence, qui n'est pas partageable, mais qui n'est pas non plus dégradable. Nous pourrions considérer avoir projeté un plan d'existence libéral, nous permettant de concevoir sans la moindre discrimination l'existence de l'arbre de fiction, de l'arbre imaginaire, de l'arbre derrière la fenêtre, de chacun de ses atomes, de chacune de ses occurrences dans le temps, etc. Mais cette existence distributive, si elle s'avérait être la seule pensable, ne serait pas satisfaisante. Pire, elle risquerait de nous induire en erreur assez gravement. Nous admettons en effet que n'importe quoi existe également et séparément. Le premier problème tient à ce que, en dédéterminant les objets, nous avons abstrait aussi leur contenu, de telle sorte que nos objets n'existent plus qu'en tant que choses et non en tant qu'ils sont telle ou telle chose. Ainsi, l'arbre réel ou l'arbre imaginaire ou la branche n'existent plus du tout en tant qu'arbre ou en tant que branche, mais en tant qu'ils sont simplement chacun quelque chose. Aussi, ils existent également, parfaitement également. Mais il est désormais impossible pour nous de donner à cette existence égale un contenu différencié. Chaque chose existe, certes, mais elle existe aussi bien qu'une autre et comme une autre. Deuxième problème, nous avons observé qu'existaient des systèmes d'objets solidaires tels que le tout et les parties ou les occurrences temporelles d'un objet et l'objet transtemporel qui semblaient relever d'une fonction inverse d'existence. Or, en leur attribuant une existence parfaitement égale, nous avons annulé cette fonction inverse, ce qui signifie que nous avons rompu le lien de solidarité entre ces objets. Ainsi, nous ne pouvons concevoir d'existence absolument égale pour un tout et pour ses parties, pour l'arbre d'hier, l'arbre d'avant-hier, l'arbre d'aujourd'hui et l'arbre d'hier à aujourd'hui, qu'à la condition de défaire tout ce qui reliait ces objets. Nous disposons donc de parties qui existent, d'un tout qui existe, mais nous ne pouvons plus former ce tout à partir de ces parties, ni décomposer ce tout en parties. C'est là le paradoxe. Ni synthèse, ni analyse n'ont plus aucun sens. En attribuant une existence égale, séparée et exclusive aux branches, aux troncs et à l'arbre entier, nous ne pouvons plus trouver les branches dans l'arbre, ni retrouver l'arbre en ajoutant les branches aux troncs et aux racines. Les branches, le tronc, les racines et leur ensemble font désormais figure de choses séparées, inaccessibles et étrangères les unes aux autres, aussi bien qu'elles sont étrangères à toutes les autres. De même, nous avons rendu l'arbre d'hier étranger à l'arbre d'aujourd'hui, et tout autant étranger à l'arbre d'aujourd'hui qu'à un rhinocéros, qu'à la couleur bleue, à la toison des argonautes ou à toute autre chose. Pour cette raison, nous disposons bien de l'existence du devenir de cet arbre, et nous disposons de cet arbre d'hier, de cet arbre d'aujourd'hui, qui tous possèdent désormais une existence égale, mais nous n'avons plus aucun moyen pour les ordonner les uns par rapport aux autres. Nous ne disposons guère que d'un monde où chaque existence exclut toutes les autres et où aucune chose n'existe dans une autre, par rapport à une autre ou pour une autre. Au sens parfaitement distributif où nous entendons l'existence, les choses n'existent plus que retirées dans le monde, hors de leurs semblables. C'est un monde où la seule existence possible pour les choses est pour ainsi dire érémitique. Dernier problème, sans doute le plus important à nos yeux. Chaque chose existe bien dans le monde, nous l'avons dit, mais ce monde, lui, existe-t-il vraiment ? Puisqu'exister signifie être dans, et que chaque chose est dans le monde qui, pour sa part, n'est pas une chose, Il faut reconnaître que ce monde qui n'est pas une chose ne peut être dans rien, ni dans quelque chose, ni en lui-même. Par voie de conséquence, ce monde où existent toutes les choses n'existe pas lui-même. C'est la difficulté dernière à laquelle, je crois, conduit toute conception authentiquement distributive de l'existence. Chaque chose peut bien exister, mais elle doit nécessairement exister en autre chose qui ne peut pas exister au même sens. Cette autre chose qu'une chose, nous l'avons appelée le monde, mais une autre conception distributive pourrait lui trouver une autre appellation, un dieu, le tout, la nature. La difficulté resterait la même. Ce dans quoi peut exister chaque chose ne peut recevoir l'existence qu'il leur donne. Et l'existence authentiquement distributive à laquelle nous avons été conduits est donc ce que nous appellerons une existence évanescente. Chaque chose existe certainement, mais dans un monde qui n'existe pas, en tout cas qui n'existe pas au sens précis où cette chose existe. Ce qui veut dire que chaque existence n'a de sens que dans une inexistence, et que chaque existence nous conduit directement à de l'inexistence, qu'elle s'évapore, pour ainsi dire, directement dans l'inexistence qui la supporte. Comme si les existences étaient des fleuves qui ne pouvaient déboucher que dans un océan d'inexistence. Bien sûr, ce n'est pas la preuve que la conception distributive de l'existence est fausse, pourquoi pas? Mais c'est seulement la preuve qu'elle est deux fois insuffisante. D'une part, elle n'est pas que distributive, en fait, comme elle pouvait le laisser croire, puisqu'elle est également discriminante. Elle permet de discriminer des choses qui existent chacune, qui sont dans le monde, et ce monde qui seul n'existe pas. D'autre part, elle ne permet de penser qu'une existence évanescente, et non pas une existence que nous qualifierions de soutenue, c'est-à-dire une existence qui nous permettrait de penser quelque chose qui existe dans autre chose qui existe aussi, et qui soutient donc l'existence de la première chose. Nous ne cherchons pas une existence absolument soutenue, qui reposerait dans un être existant en lui-même, et dont nous verrons qu'elle ne nous paraît pas recevable, mais une existence suffisamment soutenue pour rendre compte des rapports entre les choses existantes. Neuvième point. Si nous revenons à présent à notre première définition de l'existence, nous trouverons peut-être le moyen de compléter cette existence distributive, mais totalement évanescente, par une existence, cette fois soutenue, qui ne devra pas nous renvoyer pour autant à quelques conceptions graduelles ou dégradantes de l'existence que nous avons rejetées. Nous avons posé qu'exister signifiait être dans, et qu'une chose qui existait était une chose qui n'était pas en elle-même, mais hors d'elle-même, dans autre chose. Or, il existe deux manières d'interpréter cette autre chose. Soit je considère que la chose est dans autre chose qu'une chose, ce que nous avons fait, que nous avons appelé le monde, où elle est seule. Soit je considère que la chose est dans une autre chose, de sorte qu'elle est alors accompagnée. Nous avons admis que ce qui faisait d'une chose une chose, c'était sa solitude ontologique, donc le fait d'être dans autre chose qu'une chose, dans le monde qui n'existe pas en tout cas comme les choses existent. Cela signifie qu'une chose qui est dans une autre chose n'est plus vraiment une chose au sens où nous voulons l'entendre. Afin de fixer le vocabulaire, nous l'appellerons un objet, comme nous le faisons dans notre ouvrage. Un objet, c'est donc une chose prise dans une autre chose. De ce fait, tout objet est une chose déterminée, ou plutôt qui est déterminée plus qu'au minimum. Ainsi, la branche est dans l'arbre, et elle est déterminée en tant que partie par l'arbre dont elle est une branche. L'arbre est dans le paysage, mais il est aussi dans la classification des fagacées, ou dans l'ensemble des plantes, ou dans la nature, ou dans l'espace-temps. L'arbre, il y a une seconde, et dans l'arbre, à travers le temps. Bref, tout objet se trouve pris dans une série d'appartenances, qui est une série de déterminations objectives, cette fois. Essayons de décrire, pour finir, ce que pourrait être une existence non plus formelle, l'existence solitaire de chaque chose séparée et hors d'elle-même dans le monde, mais une existence objective, c'est-à-dire le mode d'existence des objets les uns dans les autres. Cette fois, nous nous montrerons particulièrement attentifs aux déterminations que nous avions fait l'effort d'écarter et d'abstraire tout à l'heure. Par quoi un objet est-il déterminé? C'est-à-dire dans quoi est-il tel qu'il est? Nous pouvons supposer que tout objet existe dans les limites de ce qui le détermine. Ainsi, la branche existe en tant que partie de l'arbre dans les limites de l'arbre. Mais la branche existe aussi dans le paysage, je peux la couper, la désolidariser de l'arbre. En revanche, il semble bien qu'une licorne, par exemple, fasse partie de nos représentations, des illustrations de nos livres, des descriptions de nos légendes, dans un certain nombre de cultures humaines en tout cas. Mais la licorne ne fait pas partie de la classification phylogénétique des espèces. Elle ne fait pas non plus partie de l'ensemble des animaux vivants sur Terre, pas plus que le Pégase, cher à Quine. En pensant l'objectivité comme un système de limites et de détermination, pourrions-nous penser ce qui faisait précisément défaut à l'existence distributive, c'est-à-dire une existence des objets en rapport les uns avec les autres, les uns limités par les autres. Ce serait une existence cette fois non pas égale et séparée, mais une existence différenciée sans être hiérarchisée pour autant, une existence que nous appellerions tout simplement bornée. En reprenant un par un nos exemples témoins, nos différents avatars d'arbres, précisons pour finir ce que nous pourrions entendre par une existence bornée. Le premier exemple est celui de l'arbre aux fruits d'or. Comme la licorne, notre arbre aux fruits d'or est une chose, tout d'abord, qui existe formellement, au premier sens distributif que nous avons défini de l'existence. Grâce à cette conception distributive de l'existence, nous voilà assurés qu'en parlant de cet arbre aux fruits d'or, nous ne parlons ni de rien ni de n'importe quoi, nous parlons bien de quelque chose. L'existence formelle de ce quelque chose ne nous permet de penser rien d'autre que le fait que l'arbre aux fruits d'or n'est pas n'importe quoi et qu'il est de quelque manière dans le monde. Mais ce quelque chose est aussi parfaitement déterminé et nous en trouvons de très nombreuses représentations. Des descriptions écrites dans les multiples versions des 12 travaux d'Hercule, dans des peintures sur vase antiques ou dans des tableaux comme celui de Rubens ou ceux des pré-Raphaélites, je pense au tableau de Burne-Jones ou de Leighton, un petit peu kitsch d'ailleurs. Plutôt que d'affirmer que les représentations de cet arbre aux pommes d'or existent, mais qu'il s'agit de représentations inappropriées, de représentations vides de références, de représentations sans objet, etc., nous considérerons que l'arbre aux fruits d'or existe bel et bien objectivement, mais que son existence objective est bornée. Cet arbre existe dans des systèmes culturels de représentation, dans des traditions narratives, picturales, voire cinématographiques, dans le péplum, et il y existe pleinement. Mais hors du vaste objet que forment à leur tour ces systèmes humains de représentation, l'arbre aux fruits d'or des Hespérides n'est trouvable nulle part. Il n'existe donc que par l'intermédiaire de cet objet plus vaste que sont ces systèmes de représentation, où il existe pleinement, mais en dehors desquels il n'existe pas. Notre opposition ne consiste à affirmer ni que l'objet imaginaire n'existe pas, position ultra-réaliste, ni qu'il existe autant qu'un objet réel, position anti-réaliste, ni qu'il existe moins que l'objet réel, position qui dégrade son existence, ni qu'il existe seulement en tant que représentation, position qui dédouble son existence, existence du représentant, existence, inexistence du représenté. Non, notre position consiste à dire qu'il existe pleinement, dans les limites seulement, d'un objet supérieur qui le comprend. Nous dirons donc que son existence est bornée extérieurement par ses systèmes de représentation. Il existe à l'intérieur d'un ensemble, mais pas au dehors. Le deuxième cas est celui de l'idée d'arbre. Il ne s'agit plus d'un objet imaginaire ou fictif, c'est-à-dire d'un objet individuel, mais de ce qui comprend idéalement tous les arbres possibles. Dirons-nous également que cette idée d'arbre n'existe que dans les systèmes de représentation humains. Il nous semble que ce serait très exactement la position d'un anti-idéaliste, qui confondrait volontiers le mode d'existence de l'imaginaire ou du fictif avec celui de l'idéal ou du conceptuel. Or, il est aisé de les distinguer en considérant la différence de bornage des existences imaginaires et des existences idéales. Notre idée d'arbre comprend tous les arbres singuliers possibles de toutes les familles, de toutes les classes, de tous les sous-ordres. Ce qui signifie que l'objet, qu'est l'idée d'arbre, comprend tous les objets que sont ces arbres, mais qu'il ne peut appartenir à l'ensemble que lui-même définit. Aucun arbre ne sera jamais l'arbre idéal. Le concept de chien n'aboie pas et le concept d'arbre n'ondule pas sous le vent. Pour cette raison, l'idée d'arbre n'est pas bornée extérieurement, mais intérieurement. Elle ne peut reposer parmi les éléments dont elle est l'ensemble. Elle ne peut s'incarner sans cesser d'être la généralité qu'elle est. Et toute idée ou tout concept possède donc aussi une existence bornée, mais en dedans plutôt qu'en dehors. Le troisième cas est celui de la branche et de l'arbre tout entier. Ici, nous nous trouvons confrontés à des objets qui, comme nous l'avons dit, sont existentiellement solidaires et que l'existence distributive, formelle, a désolidarisé. La question n'est pas de savoir si la branche, le tronc, les racines existent ou si l'arbre existe cette fois, mais comment les uns existent pour les autres. En tant que totalité des branches, du tronc et des racines, l'arbre ne peut s'ajouter à ses propres parties comme une partie supplémentaire. Il ne peut figurer parmi lui-même au rang de ses propres éléments. Ainsi, là où existent la branche, le tronc et les racines en tant que partie, c'est-à-dire dans l'arbre, l'arbre lui-même n'existe pas. Mais là où l'arbre existe en tant que totalité des branches, du tronc et des racines, ces éléments ne peuvent exister non plus, puisqu'il serait nécessaire qu'ils s'ajoutent alors à eux-mêmes. Existant une première fois dans l'arbre, il faudrait qu'ils existent aussi au dehors, comme à côté de l'arbre. Ce double rapport par lequel le tout limite l'existence des parties et les parties limitent l'existence du tout, c'est le propre de toute extension. Est étendu, ce qui répond à ce système de limitation réciproque. Un objet spatial est étendu donc précisément en tant que sa totalité n'existe pas parmi ses parties et que ses parties n'existent pas par-delà sa totalité. Au sens le plus large possible, l'extensif est un régime d'existence des objets, notamment, pas seulement des objets dans l'espace, qui fonctionne par une existence réciproquement bornée du tout et des parties. On peut néanmoins se demander à bon droit ce qui n'est pas étendu en ce sens précis. C'est le cas de notre quatrième exemple, celui des occurrences temporelles de l'arbre d'avant-hier, de l'arbre d'hier, de l'arbre d'aujourd'hui. Penser l'arbre dans le temps comme un objet extensif, ce serait considérer, comme le font certains théoriciens, que l'arbre d'hier est comme une partie de l'arbre tout entier à travers le temps et que l'arbre d'aujourd'hui en est une autre partie, et ainsi de suite. Ne pas penser l'existence temporelle sur le mode de l'extension et penser que l'arbre à chaque instant est l'arbre tout entier, c'est se condamner à d'infinies difficultés quant à l'identité des objets dans le temps. Comment recoudre ensemble l'arbre une fois qu'on l'a décomposé en une infinité d'apparitions possibles à chaque instant? Et inversement, penser l'existence temporelle sur le mode de l'extension, c'est se condamner à ne pas saisir en quoi le présent est présent, puisque l'arbre présent ne devient qu'une partie parmi d'autres, parfaitement comparable à l'arbre d'hier ou d'avant-hier, de l'arbre à travers temps. La solution que nous proposons, qui est le sujet de notre travail actuel et que nous allons résumer ici à très grands traits pour finir, consiste à admettre un autre régime d'existence objective, non plus extensif, mais intensif. Dans le cas de l'extension, un objet se trouve toujours en rapport avec d'autres objets, soit des objets qui sont des parties de lui, soit un autre objet dont il est une des parties. Ce rapport est systématiquement inégal, puisqu'il concerne un objet qui comprend et un objet qui est compris, mais est extensif en tous les cas, le rapport d'un objet à un ou plusieurs autres objets. Le rapport d'un objet à lui-même, en revanche, ne peut en aucun cas être extensif. Nous avons expliqué plus tôt que la seule égalité possible était formelle. Chaque chose est également dans le monde, parce qu'elle est seule et séparément dans le monde. Les choses ne sont donc égales entre elles que par l'intermédiaire du monde, dans lequel elles sont chacune. Les objets, en revanche, sont inégaux, puisqu'ils se comprennent ou sont compris les uns par les autres. Tout objet rapporté à lui-même ne peut donc être égal à lui-même. Soit il se comprend, soit il est compris par lui-même. Dès lors, il semble qu'il y ait deux possibilités. Soit l'objet rapporté à lui-même est comme un autre objet pour lui-même, et il n'y a aucune différence entre le rapport d'un objet avec lui-même et le rapport de cet objet avec tout autre objet. Soit l'objet rapporté à lui-même n'est pas du tout comme un autre objet pour lui-même, et il y a identité de soi à soi. Dans le premier cas, nous héritons d'un univers purement extensif, où l'arbre à chaque seconde, par exemple, devient autre chose. Où le rapport entre l'arbre d'il y a une seconde et l'arbre de maintenant est un rapport semblable à celui entre l'arbre et le sol. Dans ce cas, aucun objet n'est susceptible d'être identifiable ni réidentifiable. Toutes les entités sont des objets qui sont des parties les unes des autres, mais aucune n'est identique à elle-même. C'est un univers dans lequel il ne serait possible que de dresser des analogies fragiles entre des entités sans identité, en supposant que moi-même je suis relié analogiquement à celui que vous avez entendu parler il y a une minute, mais que j'en suis au fond différent, comme mon corps tout entier est différent de cette table, qui est différente de vous, qui est différente de l'arbre. Dans le second cas, au contraire, il existe des substances et l'identité de soi à soi est non seulement possible, mais nécessaire. L'arbre peut être rapporté à lui-même parce qu'il y aura un arbre en soi qui serait le support de toutes ces identifications et réidentifications possibles. Mais cet arbre, s'il est en soi, suivant tout notre raisonnement précédent, ne peut pas être en autre chose. Il ne peut donc pas être un objet et on ne peut pas l'identifier ni le réidentifier à lui-même. Soit il y a deux objets distincts hors d'eux-mêmes, mais il devient alors impossible d'identifier l'un à l'autre. Soit il y a une identité en soi, mais elle n'est alors l'identité de rien. On ne peut avoir à la fois des objets extensivement distincts et des identités. On n'obtiendra jamais que des identités sans objet ou des objets sans identité si on ne fait pas intervenir un troisième terme dans notre définition de l'existence. Ce qui manque dans un cas comme dans l'autre, c'est une intensité. Par intensité, nous entendons le fait qu'un objet rapporté à lui-même n'est jamais également lui-même et qu'il n'a pas d'identité substantielle. Mais aussi qu'il n'est pas pour lui-même absolument comme un autre objet. Ni identique à lui-même, ni extensivement différent de lui-même, il est plus ou moins lui-même. Une intensité, c'est exactement la variation d'une identité, puisque soi ne coïncide pas absolument avec soi, sans pour autant différer. Quoi que je fasse, en me demandant si cet arbre est cet arbre, j'introduis une variation minimale dans cet arbre. L'arbre auquel je compare l'arbre est soit un peu plus, soit un peu moins que l'arbre auquel je le compare. Il y a intensité et variation d'intensité dès lors qu'un objet à la fois ne peut en être absolument un autre et ne peut être absolument égal à soi. Il est alors inégal à soi. Il est intense. Dans le travail que nous menons, la variation des intensités de présence des objets, c'est ce que nous appelons le temps. Le présent est la présence maximale, telle que rien ne peut être plus présent. Le passé est l'ordre de rangement des intensités de présence. Ainsi, l'arbre d'avant-hier, cet arbre avant-hier, n'est pas inexistant, mais sa présence est moindre que celle de l'arbre d'hier, qui est moindre que celle de l'arbre de maintenant, qui est maximale. Ce qui varie dans le temps, ce ne sont pas les objets, mais leur présence. Plus un objet est passé, plus sa présence s'amoindrit, recouverte par des présences de plus en plus fortes de lui-même. Revenons à notre raisonnement. Quelle existence pouvons-nous attribuer aux objets passés ? L'arbre d'hier existe bel et bien. Il est encore présent, mais de moins en moins à mesure que le présent s'en éloigne. Il s'agit bien du même objet que l'arbre d'avant-hier et que l'arbre d'aujourd'hui. Chacun d'entre eux possède une existence formelle, séparée et égale. Puisque chacun d'entre eux, l'arbre hier, l'arbre aujourd'hui, chacun d'entre eux est dans le monde séparément en tant que chose. Mais en tant qu'objet, ils ne sont qu'un et possèdent dans le temps une existence objective intensive, puisque leur présence s'amoindrit à mesure qu'elle passe. L'arbre présent, que nous regardons maintenant, même s'il fait noir, c'est l'arbre qui a l'intensité de présence maximale. L'arbre que nous venons tout juste de regarder il y a quelques secondes, c'est l'arbre dont l'intensité de présence est déjà amoindrie. C'est bien le même arbre, mais dont l'intensité de présence varie. Elle augmente avec le présent et s'amoindrit dans le sens du passé. Ainsi, nous parvenons, enfin, à penser qu'un objet passé n'est pas inexistant, mais qu'il n'existe pas pour autant comme un objet présent. Il possède une intensité de présence plus faible. Nous évitons le piège de l'éternalisme qui fait exister tous les moments également et extensivement, et celui du présentisme, qui ne fait exister que le présent et qui fait tout exister au présent. L'arbre passé n'a pas disparu, il n'est pas absolument inexistant. L'arbre passé est celui dont la présence est passée dans celle de l'arbre présent, et rien d'autre ne borne l'existence de l'arbre passé que l'existence de l'arbre présent. L'arbre passé n'est donc pas par rapport à l'arbre présent comme la branche par rapport à l'arbre tout entier. Elle n'est pas comme une partie par rapport au tout. Elle n'est pas non plus comme la branche par rapport à une autre branche, comme une partie par rapport à une autre partie. Non, l'arbre passé est bien l'arbre tout entier, tout comme l'arbre présent, mais il l'est un peu moins intensément que cet arbre présent. Comment qualifier l'existence d'un objet qui n'est pas une partie d'un autre objet, mais ce même objet en un peu moins, en l'occurrence en un peu moins présent ? Il n'y a d'autre issue que de parler d'existence intensive, c'est-à-dire d'existence par laquelle l'objet se borne lui-même. C'est le même arbre qui est compris et qui comprend. Mais l'arbre compris est un peu moins parce qu'il est passé, et l'arbre qui comprend est un peu plus parce qu'il est maintenant. Ce qui nous conduit à notre dernier cas d'existence bornée, je m'arrêterai là. Nous avons passé en revue les objets imaginaires, les objets idéaux, les objets étendus, plus particulièrement les objets spatiaux, les objets intenses et plus particulièrement temporels. Chaque fois, nous avons montré comment il était possible de redéfinir leur mode d'existence comme une existence bornée qui ne distingue pas entre existence et inexistence, qui ne produit pas non plus des degrés d'existence, mais qui limite simplement, de différentes manières, leur existence objective. Restent les objets contradictoires. Nous savons que les objets contradictoires possèdent une existence formelle, qu'ils sont dans le monde aussi bien que les autres, aussi bien que cette table ou que moi, séparément et exclusivement. Mais quelle est leur existence objective ? Nous ne prétendons pas affirmer, nous ne sommes pas fous, pouvoir rencontrer une contradiction effective dans l'univers. Quoi que je fasse, je ne trouverai jamais trace de l'existence d'un arbre qui n'est pas un arbre, ni dans le temps, ni dans l'espace, ni dans le monde des idées, ni dans les représentations humaines. Aucun objet ne peut accueillir l'objet contradictoire, puisque cela signifierait qu'il serait possible de déterminer cet objet contradictoire un peu plus que formellement. Or, formellement, l'objet contradictoire a pour détermination minimale de ne pas être absolument n'importe quoi. Mais hors de cette détermination a minima, il ne peut en recevoir aucune autre. Et l'objet contradictoire semble donc n'exister dans aucun autre objet, ni extensivement, ni intensivement. Cependant, dans la mesure où il possède une existence minimale, formelle, il doit bien être localisable quelque part. Car si l'objet contradictoire n'existait dans absolument aucun autre objet, il ne pourrait pas être une chose dans le monde, toute chose existant à partir de l'abstraction d'un objet. Comment tenir les deux bouts de ce raisonnement ? Il semble que la seule solution soit la suivante. Un objet contradictoire est un objet qui n'existe jamais que dans les limites de sa négation. Ainsi, je n'ai accès objectivement au cercle carré que par l'intermédiaire de la négation du cercle carré. Chaque fois que je dois m'y référer, le prendre comme exemple, comme je l'ai fait sans cesse aujourd'hui, c'est au travers de sa négation, hors de laquelle il n'existe pas, mais au sein de laquelle il existe bien, puisqu'il y est nié. En niant le cercle carré, je produis bien une vérité, de sorte que je ne nie pas rien ou une pure indétermination. Ne pouvant me représenter, me figurer le cercle carré, lui donner une existence spatiale ou temporelle, je peux tout de même le désigner. Il existe, mais son existence est la plus bornée qui soit. C'est dans la seule prison de sa propre négation que subsiste le cercle carré, comme l'arbre qui n'en est pas un, ou l'homme qui n'est pas un homme. Déterminés a minima, ces objets contradictoires n'existent nulle part hors de leur propre négation, de sorte qu'il n'est possible d'accéder aux objets contradictoires qu'à la condition d'en passer par leur négation, qui est comme une gangue de laquelle ils ne peuvent sortir, mais qui les détruit pourtant. À la manière d'un être qui ne pourrait vivre dans un certain environnement sans un scaphandre lui procurant de quoi respirer, toute contradiction ne peut exister sans la protection paradoxale de sa propre négation, qui seule lui permet d'apparaître dans le monde, mais aussi qui le borne par son propre anéantissement, puisque la seule atmosphère que peut respirer un objet contradictoire est celle qui le détruit. Conclusion, si j'ai un petit peu dépassé, au terme donc de ce long et sinueux raisonnement, nous pouvons disposer de quelques certitudes nouvelles concernant l'existence et sa répartition parmi les choses. Nous opposons à toutes les conceptions discriminantes qui distinguent entre choses existantes et non existantes, mais aussi à toutes les conceptions graduelles ou dégradantes de l'existence qui définissent une échelle des êtres, une hiérarchie, des régimes ou des règnes d'existence, nous nous sommes aperçus que les conceptions apparemment discriminantes aboutissaient en fait à des conceptions graduelles ou dégradantes, et que ces dernières reposaient en dernière instance sur une confusion entre existence commune et existence minimale. Adoptant alors une position diamétralement opposée à la conception discriminante, nous avons recherché comment concevoir une existence dont pourrait relever toute chose sans aucune distinction, afin de mieux comprendre cette existence minimale supposée par les conceptions graduelles ou dégradantes. Pour ce faire, après avoir défini provisoirement l'existence comme le fait d'être dans et la détermination de l'existence comme ce dans quoi quelque chose est, nous avons entrepris de dédéterminer l'existence, de manière à concevoir une existence la moins déterminée possible et ainsi la mieux partager. Cette existence déterminée a minima, nous l'avons trouvée dans le fait d'être quelque chose, plus exactement d'être une chose seule dans le monde et de l'être à l'exception de toute autre chose. Nous avons découvert que n'importe quelle chose pouvait recevoir cette existence-là, qui est formelle et qui est égale. Aucune chose ne peut exister plus ou moins qu'une autre en ce sens précis. Cette existence purement distributive et non plus discriminante ou dégradante concerne même les objets contradictoires. Elle est donc la mieux distribuée parmi les choses. Mais elle s'est aussi révélée insatisfaisante, déliant les objets les uns des autres, ne leur permettant d'exister qu'en tant que quelque chose et non pas en tant que ceci ou que cela, elle est aussi ultimement discriminante, quoiqu'elle ne distingue pas entre des choses existantes et des choses inexistantes, mais entre toutes choses qui sont existantes et ce dans quoi elles existent, qui ne peut pas exister. L'existence distributive nous a paru nécessaire, puisqu'elle permet de s'assurer de l'existence de n'importe quelle chose. Mais elle nous semble aussi terriblement insuffisante. Elle produit en effet une existence évanescente, chaque chose n'existant plus que dans ce qui n'existe pas, et faisant ainsi s'évaporer l'existence acquise. À cette existence parfaitement distributive, égale, certes, mais totalement évanescente, nous avons opposé une existence bornée, mais cette fois soutenue. Il s'agit du mode d'existence d'une chose dans une autre chose que nous appelons alors un objet. L'existence des objets est bornée à leur détermination, de sorte qu'ils existent toujours dans certaines limites. Nous avons alors redéfini différentes catégories d'objets qui nous avaient accompagnés tout au long de notre raisonnement. Un objet dont l'existence est bornée supérieurement par l'ensemble qui le comprend est un objet imaginaire ou fictif. C'est un objet local. Un objet dont l'existence est bornée inférieurement et qui ne peut exister au même titre que les objets singuliers dont il comprend l'existence est un objet idéal. Un objet dont la totalité et les parties se bornent réciproquement est un objet étendu, ce qui est plus particulièrement le cas d'objets spatiaux. Un objet dont l'existence est bornée par lui-même est un objet intense, et plus particulièrement un objet temporel. Enfin, un objet dont l'existence est bornée à sa propre négation est un objet contradictoire. Nous en sommes donc venus à renoncer à toute distinction substantielle entre des choses qui existeraient et d'autres qui n'existeraient pas, cette division n'étant source que de confusion et d'aporie. Ce ne sont plus les choses que nous avons divisées en deux, entre existence et non-existence. Non. C'est l'existence elle-même que nous avons redivisée entre une existence formelle et distributive et une existence objective et bornée. Voilà le cœur de notre conclusion. Il doit y avoir deux existences. Dire de quoi que ce soit qu'il existe, c'est désigner soit son existence purement formelle et distributive, soit son existence objective et bornée. Il ne faut jamais cesser de s'interroger sur l'existence des choses, mais l'intérêt de cette activité essentielle à la métaphysique, qu'on a souvent disqualifiée, ne doit pas tenir à l'espérance illusoire de partager les choses en deux groupes, existantes et non existantes. Elle ne doit pas non plus tenir à l'ambition vaine et trompeuse de hiérarchiser ces choses en concevant l'existence comme une perfection susceptible de degrés. La métaphysique classique et moderne s'est trop longtemps fourvoyée dans ces conceptions-là de l'existence. Penser, c'est d'abord faire l'effort, qui seul mérite sa peine, de ne refuser d'existence à rien, afin justement de pouvoir distinguer ces existences. À ce titre, la première tâche de la pensée, me semble-t-il, est non pas d'être parcimonieuse et de réduire les existences, mais d'être généreuse et d'en comprendre le plus possible. Car pour distinguer les choses, il faut toujours commencer par leur réserver une part égale d'être, afin d'être certain par la suite de découper ce qui est, plutôt que ce qui n'est pas, qui lui ne se partage pas. Je vous remercie.